France Culture.
. 2024, année record pour les versements de dividendes. Au début de ce mois de mars, l'étude annuelle du gérant Janus Henderson faisait état de 1747 milliards de dollars de dividendes versés à l'échelle mondiale contre 1661 milliards en 2023. En France, ce sont 50% des bénéfices des entreprises cotées au CAC 40 qui sont reversés sous forme de dividendes. Est-ce là une voie naturelle qui coule de source? Tout surplus, tout bénéfice est-il voué à terminer sous forme de liquidité distribuée aux actionnaires? Pourquoi cet argent n'est-il pas employé à financer les investissements des entreprises en question et rester ainsi dans le giron de ces sociétés, sous le contrôle de ses dirigeants? Deux entités semblent se faire face. Actionnaires et dirigeants n'ont pas forcément la même vision de la stratégie à mener, mais qu'à cela ne tienne, les uns réclament leurs dividendes et les autres le leur donnent, parfois de mauvais gré, mais très souvent en adhérant à cette conception financière de l'entreprise qui fonde désormais sa valeur aux yeux des actionnaires. Alors comment expliquer cette prise de pouvoir au sein même des entreprises? Au nom de quoi les actionnaires réclament-ils ce qu'ils considèrent être leur dû? Et au nom de quoi les dirigeants se plient-ils à cette injonction? Des questions qui interrogent plus largement la raison pour laquelle une entreprise doit dégager du profit et quel est son intérêt dans l'absolu. Or, si le financement d'une entreprise passe depuis longtemps par le recours à l'émission de titres, actions ou obligations, ce n'est que depuis les années 80 et le tournant de la financiarisation que la volonté des actionnaires a pris un tournant nouveau et surtout s'est imposée de façon nouvelle grâce à des véhicules financiers qui pèsent de plus en plus lourd dans la prise de décision. Quels sont leurs objectifs et selon quelle rationalité agissent-ils en actionnaires? C'est ce que nous allons voir jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, mise en onde par Dalia et réalisée par Françoise Hulfloc. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Tristan Auvray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord et directeur adjoint de l'unité de recherche analyse des crises et transitions. Oui. Vous êtes le co-auteur avec Sandra Rigaud et Thomas Dallery de l'ouvrage L'entreprise liquidée, 2. La finance contre l'investissement, paru chez Michelon, ainsi qu'avec Nicolas Bédu, Caroline Granier et Sandra Rigaud toujours, de l'industrie de la finance, paru à la Découverte en 2022. Également avec nous Pierre-François, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS et au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Votre ouvrage « La sociologie historique du capitalisme » rédigé avec Claire Lemercier, apparu à la Découverte en 2021. Et je précise que vous êtes avec nous depuis les studios d'ici à Rennes. Un grand merci donc à Christophe Bompas qui assure la liaison cet après-midi. Alors le 6 mars dernier, les publications annuelles des résultats de la vaste majorité des entreprises du CAC 40 ont été clôturées. Or, le bilan de l'année 2024 est sans appel. D'après les chiffres compilés par la lettre Vernimen, référence en la matière, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 98,2 milliards d'euros, dont 25,5 milliards sous forme de rachat d'actions et 72,8 milliards sous forme de dividendes en numéraire, soit le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que le Vernimen fait cette étude, soit 22 ans si mes informations sont exactes. Tristan Auvray, un point s'impose. Qu'est-ce que veut-il dire pour autant que les actionnaires sont plus riches de ces sommes-là?
Alors,
c'est un vaste débat.
Oui, 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 oui. Alors, il est certain que le versement de dividendes et les autres méthodes de versement de cash aux actionnaires sont une des méthodes principales d'enrichissement des actionnaires. Alors, c'était pas la seule. L'autre, c'est la valeur du prix du titre. La valeur du prix de l'action. Donc, ce sont vraiment les deux formes d'enrichissement d'actionnaires. Et quand on essaie d'ailleurs d'estimer ce que gagne un actionnaire sur une année, on essaie de regarder un petit peu les deux. Ce qu'ils ont gagné à la fois en termes de versement de dividendes et ce qu'ils ont gagné à la fois en termes de prix de l'action.
Pourtant, Tristan Auvray, je me permets juste pour qu'on ait l'étendue du débat sous les yeux, beaucoup disent, et c'est notamment le cas des rédacteurs de la lettre Vernimen, beaucoup disent que lorsque l'on verse des dividendes, c'est autant de valeur, on va dire, que l'action perd, et que verser des dividendes à l'actionnaire ne l'enrichit pas, puisque de fait, son action perd de la valeur.
Oui.
C'est le grand argument.
Alors ça, c'est le grand argument de toute la théorie financière depuis les années 50-60, et c'est un argument qui est celui des économistes qui font des modèles pour expliquer le monde. Mais les mêmes économistes font des études empiriques et montrent que les actionnaires n'ont pas cette rationalité-là. Ils valorisent, ils ont tendance à préférer les entreprises qui versent des dividendes. Et ce qui apparaît, c'est que souvent, les entreprises qui versent des dividendes sont celles qui ont les prix des actions qui augmentent le plus relativement aux autres.
Donc il y a une corrélation quasiment directe.
Donc, alors, il n'y a pas toujours une corrélation, mais elle est là dans bien souvent, oui, en effet.
Donc on voit qu'il y a une forme de biais comportemental, en tout cas de préférence pour cette fameuse liquidité qu'est le dividende, malgré effectivement tous les débats que cela peut engendrer. Mais on a bien compris que dividende plus valeur de l'action en tant que telle constitue des formes de rémunération pour les actionnaires. On l'a dit, en 2024, c'est une année de tous les records. Alors on a parlé du niveau français, mais aussi au niveau mondial. Pierre-François, très concrètement, de quoi le versement de dividendes est-il le signe? Est-ce que c'est le signe d'entreprise qui se porte bien? De quoi les dividendes sont la manifestation, en quelque sorte?
Bon, un dividende, c'est en gros la part du gâteau qui a été créé, qui arrive dans la poche de l'actionnaire directement. Donc, une entreprise qui distribue des dividendes, a priori, je dis bien a priori, parce qu'il y a des configurations qui sont plus rococo, mais a priori, une entreprise qui distribue des dividendes, c'est une entreprise qui a créé la richesse. Et qui décide de donner cette richesse à ceux qui lui ont donné du capital, donc qui lui ont permis de créer cette richesse en partie. Bon, puisqu'il y a aussi quand même du travail pour créer de la richesse. Donc a priori, on peut très bien dire, et c'est souvent le cas, hein, une entreprise qui distribue des dividendes et qui les distribue généreusement, c'est qu'elle a dégagé des bénéfices et que par conséquent, elle rémunère ceux qui lui ont permis de le faire. Donc en première approximation, on peut dire que ce sont plutôt les entreprises qui vont bien. Après ça, il peut y avoir des situations qui sont des situations plus compliquées, où les entreprises vont mal et elles ont peur que leurs actionnaires revendent leurs titres et que par conséquent les cours baissent et qu'elles aillent du coup encore plus mal, et où par conséquent la ponction sur les résultats va être encore plus importante et va être déraisonnable par rapport à ce qui serait économiquement viable pour que l'entreprise puisse effectivement survivre. Donc en général, c'est plutôt bon signe et parfois ça peut être un symptôme plutôt problématique.
Et c'est intéressant, Pierre-François, parce qu'on a là une nouvelle fonction du dividende qui est finalement d'envoyer un signal au-delà même de la valeur ou de l'enrichissement potentiel de l'actionnaire. C'est aussi un signal envoyé de ce à quoi correspond la santé effectivement de l'entreprise. Sauf que Tristan Auvray, il faut introduire une nouvelle dimension, on va dire, ou un nouveau paramètre dans ce choix de distribuer des dividendes. Quand une entreprise fait des bénéfices, elle a le choix entre le réinvestir dans l'entreprise, donc sous forme d'autofinancement, soit de fait le distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Donc, il faut comprendre que quand Total, LVMH, Stellantis, et je cite là les trois plus gros distributeurs de dividendes en 2024, distribuent de fait des dividendes, c'est tout simplement quoi, qu'ils n'ont pas besoin d'investir, c'est ça le message qu'ils envoient?
Oui, tout à fait. Alors, on pourrait même aller plus loin. C'est que non seulement ils font un arbitrage annuel entre dividendes et investissements, mais ils font aussi un arbitrage avec les salaires. Puisque le gâteau dont parlait Pierre-François tout à l'heure, la valeur qui est créée dans une entreprise, elle est partagée d'abord entre salaire et profit. Et donc, l'arbitrage qui est fait quand on décide de verser un peu plus de dividendes, ça peut prendre sur l'investissement, parce que les profits vont être en effet distribués entre un dividende et investissement, mais ça peut aussi prendre sur les salaires. Donc le choix qui est fait, c'est plutôt que de contribuer à l'augmentation de la masse salariale ou de participer à des plans de primes pour les salariés, le choix qui est fait, c'est de favoriser la distribution en effet aux actionnaires. Alors ça peut se faire totalement au détriment de l'investissement. Pas forcément. Il peut y avoir des entreprises en bonne santé donc qui, à la fois, font de l'investissement et contribuent à verser des dividendes. Mais ce qu'on constate quand même, de manière tendancielle, depuis les années 2000, un petit peu partout dans le monde, c'est que la répartition, elle se déforme de plus en plus en faveur des dividendes. Donc, plus le gâteau grossit, plus on verse de dividendes, mais moins on va faire d'investissement relativement. Donc c'est ça le problème, et ce qu'on appelle, c'est vraiment cette tendance-là qu'on appelle la financiarisation de l'entreprise. Quand le dividende va être distribué au détriment de la part de l'investissement dans le total du gâteau.
La justification des trois grandes entreprises que je viens de citer, entre autres, hein, mais ce ne sont que des exemples, c'est que finalement redistribuer ces dividendes permet aux actionnaires de réorienter ces capitaux vers des sociétés qui en ont plus besoin, plutôt que de les gaspiller en surinvestissement ou en placement oisif de trésorerie. Est-ce une justification valable à vos yeux, Tristan?
Alors ça, c'est l'explication la plus traditionnelle qui soit en finance, qui est celle de l'hypothèse d'efficience des marchés financiers. C'est une hypothèse très classique qui dit que les marchés financiers, et donc les actionnaires, sont les acteurs les plus rationnels pour allouer le capital là où il sera le plus efficace. Les exemples multiples des crises financières à travers l'histoire, des bulles spéculatives, de l'argent qui est investi dans des endroits où il n'aurait pas dû être investi aussi massivement et qui finissent par éclater et provoquer des graves crises économiques, montrent que l'efficacité des actionnaires dans l'allocation du capital n'est pas vraiment optimale.
Et donc, de fait, ça donne relativement peu envie de leur laisser les clés du camion.
Et donc, il y a la possibilité, enfin, une entreprise peut avoir le choix elle-même de réinvestir ses capitaux dans des investissements. Et c'était ce qui se passait, en fait, si vous voulez, dans les années 80, où les entreprises, si elles ne voyaient pas d'opportunité nécessairement dans une activité particulière, allaient investir dans une autre. Et donc la diversification, elle se faisait pas dans le portefeuille des actionnaires, mais dans les activités de l'entreprise.
Au sein même de l'entreprise, c'est ce qu'on prend. Et ça. Du reste, on pourrait aussi signaler que certaines entreprises, et de très grosses entreprises aujourd'hui, qui ont atteint une espèce de seuil de maturité, ne versaient pas jusqu'à très récemment de dividendes du tout. C'était le cas de Meta, de Google, qui ont versé des dividendes pour la première fois en 2024. Et pourtant, on ne peut pas dire que ces entreprises-là faisaient particulièrement peur aux actionnaires. Verser des dividendes reste un choix, Tristan Auvray. Qu'est-ce qui le détermine? C'est une question de secteur, de taille de l'entreprise?
Oui, alors là, les exemples que vous venez de prendre sur les big tech sont assez illustratifs du bon fonctionnement des marchés financiers, en quelque sorte, si vous voulez.
Voilà.
C'est du moins tel que le pensent les économistes. C'est-à-dire que à partir du moment où Meta, Alphabet, la maison mère de Google, se sont cotés en bourse pour obtenir des capitaux, ça leur a permis de ne pas avoir à payer des intérêts comme s'ils avaient dû s'endetter, mais et de procéder à leur croissance sans avoir de contraintes financières. Les actionnaires voyaient très bien qu'ils étaient en situation de construire des positions oligopolistiques, enfin des situations de contrôle des marchés mondiaux. Et ils les ont laissés faire jusqu'au moment où la richesse a été telle qu'il faut bien un moment rétribuer les actionnaires pour ça. Mais donc pendant 20 ans, si vous voulez, le modèle a un peu fonctionné, mais pour ces quelques firmes-là, très particulières, et c'est vraiment une exception, parce que pour le reste des États-Unis, puisqu'on parle d'eux en ce moment, les marchés financiers ont plutôt tendance à prélever plus sur les entreprises qu'à ne leur apporter. Là, on a vraiment des cas très spécifiques avec ces quelques sociétés-là. Donc là, c'est vraiment très sectoriel, cet effet-là, pour le cas des big tech. Et après, en effet, on a des normes plus ou moins sectorielles pour la distribution de dividendes. On va avoir des secteurs où ça va être le chiffre que vous avez cité en introduction, qu'il y a à peu près 50% des bénéfices qui sont distribués en dividendes. C'est devenu une moyenne à peu près, ça, sur l'ensemble des... sur les 20 dernières années en France, par exemple. Mais il y a des spécificités sectorielles. Dans l'automobile, ça va être un peu moins, par exemple. Dans des activités, vont être beaucoup plus, vont distribuer plus que peut-être 75%, voire 80% du bénéfice.
Donc on voit que c'est une question de secteur, une question aussi de taille des entreprises. Pierre-François, très concrètement, quand on dit que les entreprises n'ont pas besoin d'investir ou n'ont pas choisi de le faire, derrière ce « on », finalement, qui se cache très concrètement? Est-ce que les actionnaires ont un pouvoir, ont la capacité de déterminer leur propre rémunération, à savoir justement le dividende qui va leur revenir à la fin de l'exercice en cours? Est-ce que ça relève du pouvoir des actionnaires que de déterminer leurs propres dividendes?
Bon, là encore, il faut bien distinguer selon les secteurs, selon les entreprises, selon le type d'actionnaire et notamment selon le rapport de pouvoir qui existe entre les principaux actionnaires et les dirigeants exécutifs. Il est clair de toute façon que dans les entreprises dont on parle ici, il y a un échange, il y a un dialogue. C'est-à-dire que c'est pas une décision qui se fait sans qu'il y ait une interaction ferme entre les dirigeants exécutifs qui gèrent l'entreprise au quotidien, qui prennent les décisions, et puis ce qui va ensuite être acté et enfin présenté au conseil d'administration et ensuite acté. La capacité de qu'ont les actionnaires de récupérer une partie du gâteau qui a été fabriqué, en fait, doit être replacée dans à la fois dans une question qui est une question plus générale, qui est en gros qui décide de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, et deuxièmement comment la réponse à cette question a évolué au cours des 40 dernières années. Bon, et si on veut donner à cette question une réponse vraiment extrêmement schématique, et là encore il faudrait vraiment distinguer selon les secteurs, les pays, etc., on peut dire que les actionnaires étaient quand même assez largement en dehors du coup jusqu'au début des années 80 et ils y sont entrés et par ailleurs ils décident de plus en plus en particulier sur ce type d'orientation. Un actionnaire va pas forcément prendre la décision de créer une usine ici plutôt que là, etc. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément ce type de décision qui va être prise. En revanche, puisqu'on parle d'investissement, un actionnaire est susceptible de décider par exemple de procéder par des investissements. Donc justement en fabriquant des usines soi-même ou au contraire en rachetant des entreprises qui ont déjà des usines, donc dans des stratégies de croissance externe. Ça, ils peuvent peser là-dessus. Et puis sur le partage de la valeur, oui, là pour le coup, ça les intéresse directement au premier chef et à très court terme. Et donc là, en général, ils pèsent beaucoup, soit directement, soit en exerçant une amicale pression sur le coût du dirigeant exécutif. Oui.
Tristan Vray, pour faire un dernier point, pour avoir tous les éléments en tête, on parle de cette volonté des actionnaires, mais très concrètement, comment cette volonté s'exprime-t-elle? Comment la gouvernance, on va dire le pouvoir, se répartit-il entre les actionnaires, les membres du conseil d'administration, la direction générale aujourd'hui? Alors encore une fois, on peut peut-être plutôt parler du cas de la France et d'un cas assez générique, on va dire, mais comment ça se répartit? Qui a voix au chapitre et dans quelles instances?
Oui, alors on dit en effet que les actionnaires ont deux moyens d'expression. Exit and voice, pour reprendre la typologie d'Hirschman, c'est-à-dire la voix ou la menace de sortie de l'entreprise. La voix, c'est quoi? C'est le vote en assemblée générale. C'est très important de bien saisir que les actionnaires n'ont le droit de s'exprimer qu'en assemblée générale et pas ailleurs. Ils n'ont pas le droit d'aller dans l'entreprise prendre des actifs particuliers, ça s'appelle de l'abus de bien social. Donc, leur lieu de décision, c'est l'Assemblée Générale qui a lieu une fois par an. Mais dans cette Assemblée Générale, on prend des décisions très particulières qui sont des décisions de gestion, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Donc ça peut être l'arbitrage, combien on va verser en dividendes, par exemple. Mais ce sont aussi des décisions de contrôle, c'est-à-dire nommer les membres du conseil d'administration. Et là, les actionnaires sont très, très attentifs à qui on va mettre quand même dans le conseil d'administration. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration, c'est lui qui nomme et révoque le directeur général. Donc on a ce triptyque entre l'Assemblée Générale, qui se réunit une fois par an, le Conseil d'administration, qui lui va surveiller les actions du dirigeant et qui va participer aux grandes décisions stratégiques de l'entreprise, disons une fois par mois, et les dirigeants qui, eux, sont au quotidien, mais qui dépendent du Conseil d'administration, qui lui-même dépend de l'Assemblée Générale. Et le point important, c'est que finalement, les actionnaires, c'est pas qu'ils sont arrivés depuis des années... Ils sont pas revenus depuis les années 80, en fait. Ils ont quelque part toujours été là, et notamment dans les conseils d'administration. Parce que quand on est un actionnaire suffisamment important dans le capital d'une entreprise, on a les moyens de peser en assemblée générale, et donc on a le poids pour peser sur le choix des membres du conseil d'administration. Et qui on va mettre? On va mettre ses pions. Soit soi-même, si on a envie de s'impliquer dans les affaires, soit ses représentants. Et il y a souvent une grande affinité entre les membres du conseil d'administration et ce qu'on appelle les actionnaires de référence des entreprises.
Pierre-François, on voit là effectivement une forme de proximité qui s'institutionnalise aussi. Alors on va voir si c'est un tournant effectivement des années 80, mais aujourd'hui en l'état, effectivement d'un point de vue sociologique, et je rappelle que vous êtes sociologue, d'un point de vue sociologique, on observe effectivement cette proximité liée à cette on va dire, organisation de la gouvernance et du droit et de la voix au chapitre. Est-ce qu'il y a effectivement une évolution du profil des dirigeants d'entreprise qui auraient tendance à se rapprocher aussi de ce que désirent ou de ce que peuvent émettre en termes de modèles des milieux plus financiers? Est-ce qu'on voit ces deux logiques-là se rapprocher?
Il y a deux manières de répondre à votre question. Il y a une manière de répondre à votre question qui consiste à se demander qui sont les dirigeants exécutifs et qu'est-ce qu'ils étaient il y a 100 ans. Alors, si on pose cette question-là, la réponse est massivement, c'est les mêmes. Alors c'est évidemment pas les mêmes, c'est-à-dire que ceux qui étaient là il y a 100 ans nous ont quittés et puis on les a remplacés, mais on les a remplacés par des gens qui sont sociologiquement extrêmement proches de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire qu'ils sont nés aux mêmes endroits, ils ont fait les mêmes études, leurs familles ont les mêmes types de propriétés, je veux dire en termes de taille, de stabilité, etc., éventuellement d'inscription religieuse, etc. Donc on a une domination très très forte de la bourgeoisie catholique traditionnelle, enfin voilà, des choses qui sont bien documentées par par la sociologie des élites. Ce sont par ailleurs des gens qui ont le même type de carrière, qui peut passer ou pas par l'État. Donc on a deux voies d'accès traditionnellement à la tête des entreprises, qui est donc en gros les grands corps de l'État, et puis de l'autre les ascensions qui sont les ascensions plutôt intrafamiliales. Bon, tout ça, si vous voulez, si vous prenez les propriétés sociales des dirigeants d'entreprise, des dirigeants exécutifs d'entreprise aujourd'hui en 2020 et puis hier en 1880, donc il y a 140 ans, donc il y a vraiment très longtemps, vous avez les mêmes blocs. Vous avez les mêmes propriétés, donc les individus n'ont pas fondamentalement changé. Et effectivement, il y a 140 ans, il y avait déjà des financiers. Il y avait déjà des gens qui avaient fait toute une carrière en banque et qui ensuite passaient dans l'industrie, etc., etc. On avait déjà ce type de carrière-là. Bon. Deuxième manière de répondre à votre question, c'est de dire en fait comment ces gens-là raisonnent, quels sont leurs objectifs et quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et là, les réponses sont assez fondamentalement différentes pour le coup. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont globalement restés les mêmes, mais qui se sont convertis, qui ont changé de manière de raisonner, et qui ont changé de manière de raisonner, notamment parce que ça leur permettait de rester au sommet auquel ils étaient promis. Et ça, alors là, pour le coup, c'est une différence qui est une différence très très forte, et on peut repérer effectivement, dans les années 80, une transformation dans la manière dont, par exemple, les individus vont parler quand ils prennent la parole dans les médias, la manière dont ils vont éventuellement raisonner quand ils s'adressent aux actionnaires, quand ils s'adressent aux marchés financiers, quand ils prennent la parole dans le champ politique ou médiatique, etc. Et là, on a une transformation qui est une transformation assez sensible, et on voit assez nettement une adoption d'une rhétorique, mais qui n'est pas seulement une rhétorique, je veux dire, qui est vraiment une manière d'approcher l'économie, c'est-à-dire c'est vraiment des cadres de pensée qui se sont assez fondamentalement transformés, mais qui ont été adoptés par des individus qui, eux, n'ont pas changé.
Alors on va voir comment ces logiques en fonction des groupes d'individus évoluent, fluctuent et parfois se rapprochent, voire se confondent. Toute la question très vaste est de savoir finalement qui décide. Une question à laquelle Milton Friedman a répondu en septembre 1970. Il a tranché dans un article paru dans le New York Times et qui avait fait date.
Dans un système de libre entreprise et propriété privée, un dirigeant d'entreprise est l'employé des propriétaires de l'entreprise. Il est directement responsable devant ses employeurs. Cette responsabilité est de mener l'entreprise en accord avec leurs désirs, qui en général doivent être de gagner autant d'argent que possible, tout en se conformant aux règles de base de la société, à la fois celles représentées par la loi et celles représentées par la coutume éthique. Bien sûr, dans certains cas, ces employeurs peuvent avoir un objectif différent. Dans chaque cas, l'essentiel est que, dans sa position de dirigeant d'entreprise, le gérant est l'agent des individus qui possèdent l'entreprise ou établissent l'institution de charité. Et sa responsabilité principale est envers eux. Dans chacun de ces cas, le dirigeant d'entreprise dépenserait l'argent de quelqu'un d'autre pour un objectif d'intérêt sociétal général. Dans la mesure où ses actions en accord avec sa responsabilité sociétale réduisent les rentrées des actionnaires, ils dépensent leur argent. La pleine justification qui permet aux dirigeants d'entreprise d'être sélectionnés par les actionnaires est que le dirigeant est un agent au service des intérêts de son principal. Cette justification disparaît quand le dirigeant d'entreprise impose des taxes et dépense les revenus à des buts sociétaux. Et qu'il le veuille ou non, peut-il s'en sortir en dépensant l'argent de ses actionnaires, clients ou employés ? Les actionnaires ne vont-ils pas le licencier ? Soit les actuels, soit ceux qui arriveront quand ses actions, au nom de la responsabilité sociétale, auront fait baisser les profits de l'entreprise et le cours des actions. Ses clients et ses employés peuvent l'abandonner pour d'autres producteurs et employeurs moins scrupuleux dans l'exercice de leur responsabilité sociétale.
Pierre-François, vous citez cet extrait, ou plutôt un extrait de cet extrait, au tout début de l'article que vous avez consacré à l'entreprise et ses actionnaires, rédigé avec Claire Lemercier et Thomas Réverdi. Et c'est vrai que cet extrait-là, cet article-là de Milton Friedman pose une très vaste question, celle du but finalement de l'entreprise. Alors Friedman a répondu, c'est clairement le profit, mais est-ce vraiment le cas ? Et je pose la question parce que c'est notre question aujourd'hui dans cette émission Homo Economicus. Et est-ce que les actionnaires veulent ou peuvent faire le bien de l'entreprise ? Alors il faut se demander ce qu'est le bien de l'entreprise, est-ce que l'entreprise peut avoir un autre but que celui du simple profit, Pierre-François ?
Si vous m'y autorisez, je modifierai un tout petit peu votre proposition. C'est pas Milton Friedman qui répond ça. C'est le capitalisme. C'est-à-dire que Milton Friedman, il est ici, disons la pitié, ou le représentant de la logique capitaliste. Quand il dit que la responsabilité sociale du dirigeant d'une entreprise, c'est de verser de l'argent aux actionnaires, ben ma foi, il ne fait qu'énoncer. Ce qui est au principe du fonctionnement capitaliste ça dépend comment on compte. Nous, avec Claire, on estime que ça remonte à la fin du XVIIe, mais enfin, on peut remonter beaucoup beaucoup plus loin si on veut. Donc, il n'y a pas véritablement d'ambiguïté, me semble-t-il, là-dessus. Et je pense que la vertu d'un texte comme celui de Friedman, c'est de rappeler cette logique qui est une logique très profonde. Alors évidemment, le problème, c'est que pour pouvoir créer de la richesse, il faut réussir à agréger plein de gens et plein de moyens. Et donc, on sollicite et on mobilise ce qu'on appelle, de manière un peu euphémisée, des parties prenantes. Et donc, il y a eu des propositions alternatives, mais enfin qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas triomphé, qui ont essayé de dire, l'objectif de l'entreprise, c'est pas uniquement de maximiser le profit des actionnaires, c'est de maximiser le bien-être, le profit, si vous voulez, ou le bonheur, ou que sais-je, des différentes parties prenantes. Et on a des propositions qui sont éventuellement assez sophistiquées. Hein, je pense à des choses qui ont été faites au cours des 20 dernières années à l'École des Mines, par exemple, pour essayer d'expliquer que non, ce ne sont pas les actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise. Les actionnaires, ils sont propriétaires de la société, au sens juridique du terme, mais l'entreprise, c'est autre chose, c'est une rencontre avec des intérêts qui sont beaucoup plus nombreux, et notamment l'entreprise, elle a son intérêt propre, qui est par exemple de persister dans son être, comme dirait l'autre. Alors, le truc, c'est à la fois, c'est des idées qui sont des idées souvent très brillantes, et très brillamment présentées, mais enfin, c'est un peu des châteaux dans le ciel, tout ça, c'est-à-dire que concrètement, et ça l'est de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un régime où, à la fin du compte, non, l'objectif d'une entreprise, qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, hein, c'est ainsi, mais l'objectif d'une entreprise, c'est quand même la création de profit pour ceux qui en sont les propriétaires, à savoir les actionnaires.
Tristan Auvray, j'allais vous poser la question, justement, est-ce que d'un point de vue juridique, les actionnaires sont bien les propriétaires de l'entreprise ?
Oui, là, il y a en effet deux aberrations qu'on a entendues dans le texte que vous avez... que vous avez diffusé. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pierre-François, hein, je veux dire, l'objectif d'une entreprise capitaliste, hein, parce qu'on pourrait parler d'entreprise publique aussi, mais l'objectif d'une entreprise capitaliste, c'est de faire du profit, évidemment. Mais juridiquement, on a entendu que l'actionnaire possède l'entreprise, c'est totalement faux, évidemment. Il ne possède que ses actions, qui lui donnent des droits, néanmoins. Et ce sont ces droits-là, de vote en Assemblée Générale, qui vont leur permettre d'avoir une influence assez considérable sur la gouvernance des entreprises et la réorienter vers le profit. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement, les dirigeants, ce sont un petit peu les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et c'est leur cadre de pensée surtout qui a évolué. Et leur cadre de pensée, il a quand même évolué dans ce sens-là, dans cette idée que c'était aussi dans le texte de Friedman, c'était dans cette idée que le dirigeant, c'est finalement l'employé de l'actionnaire, alors que c'est totalement faux aussi. Le dirigeant est juste l'employé de la société.
Il le dit, Friedman, la responsabilité du dirigeant d'entreprise est envers les propriétaires,
les actionnaires. Donc ça. C'est une aberration, mais c'est aussi ce cadre de pensée où les dirigeants se sont mis à agir dans l'intérêt quasi exclusif des actionnaires. Alors, ils jouent aussi là-dessus, évidemment. Parfois, il y a du discours sur on va créer de la valeur actionnariale pour mener d'autres projets. Mais il suffit de regarder les chiffres que vous avez cités en introduction sur les versements de dividendes pour comprendre la réorientation très claire, non seulement en faveur du profit, mais aussi en faveur de la distribution de celui-ci. Il est là surtout le problème, en fait, parce que à la rigueur, qu'une entreprise capitaliste fasse du profit, ça, c'est le cas depuis que le capitalisme existe, en fait. Mais la question véritable, c'est comment on utilise ce profit. Et là où on parle de financiarisation de l'entreprise, c'est quand, justement, la distribution de ce profit ne permet plus d'améliorer la création de la richesse. et elle ne permet plus d'améliorer la création de la richesse à partir du moment où on ne réalise pas assez d'investissements, où on verse trop de dividendes, d'investissements qui permettent d'améliorer la productivité, qui permettent de créer des modèles innovants qui vont ensuite permettre à l'entreprise d'avoir de nouvelles ressources financières, etc.
Tristan Auvray, ce qu'on comprend, c'est effectivement cette question de la répartition et en fonction des intérêts de qui, finalement, qui est sur le tapis. On pourrait se poser la question assez naïvement. C'est finalement, quand on voit qu'il y a de potentiels conflits qui peuvent émerger de la présence de ces deux acteurs, que seraient les dirigeants et les actionnaires, même si on voit que finalement, leur point de vue converge avec cette fameuse financiarisation qui est une espèce d'acmé aussi de développement du capitalisme dans les années 80, on pourrait se demander pourquoi diable avoir mis un doigt dans l'engrenage dès le départ, pourquoi diable cette encombrer des actionnaires en première instance, à partir de quand les entreprises prennent conscience qu'il y a ce besoin d'actionnaires et puis prennent conscience que ça peut potentiellement leur poser problème.
Alors, pour parler du cas de la France, le tournant arrive au milieu des années 90. Bon, y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours des actionnaires qui sont représentés au conseil d'administration. Ceux-là, ils sont toujours là, ce sont essentiellement des grandes familles. Leur cadre de pensée a pu évoluer dans un certain sens, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais le vrai tournant, c'est d'avoir un nouveau type d'actionnaire dans le capital des firmes françaises, qui sont des investisseurs financiers, qui représentent, par exemple, des fonds de pension américains ou britanniques. Et ceux-là, ils arrivent dans le capital des entreprises françaises au milieu des années 90 en raison de deux déterminants, un externe et un interne. Déterminant externe, c'est l'évolution de l'Union européenne, où, début des années 90, on met en place la mobilité du capital en Europe, on enlève les frontières. Et le débat à cette époque, c'était de savoir si finalement les États-Unis avaient le droit de venir agir en Europe de la même manière que les Européens pouvaient le faire. Et la réponse a été oui. À partir du moment où on a une filiale en Europe, on peut avoir les mêmes droits que n'importe quel Européen. Donc ça, c'est le premier déterminant. La possibilité pour des investisseurs, notamment venus des États-Unis, de venir investir en Europe. Le deuxième déterminant, plus interne à la France, c'est qu'au milieu des années 90, à la suite des privatisations, on a eu un ensemble de sociétés qui ont eu pour actionnaires d'autres grands groupes qui ont décidé au milieu des années 90 d'arrêter de se détenir les uns les autres dans des jeux de participation réciproques. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont décidé à retirer leur participation pour utiliser leurs fonds pour leur propre croissance internationale, il a fallu les vendre à quelqu'un, ces actions. Et qui était disponible pour les acheter ? Qui avait l'épargne pour le faire, c'était essentiellement ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de portefeuille qui agissent pour le compte des fonds de pension, notamment aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni.
Il y a ces investisseurs institutionnels qui sont, on peut le dire, la grande nouveauté, entre guillemets, de ces années 80, en tout cas l'importance qu'ils prennent. Mais on pourrait se dire, Pierre-François, que de tout temps, ce qu'un historien ne doit jamais dire, mais que très rapidement, à partir du moment où des entreprises croissent, notamment en taille, et notamment parce que les marchés aussi augmentent en taille, il y a eu ce recours à des acteurs financiers. Les banques financent les entreprises depuis au moins le 19e siècle, si ce n'est le 15e, le 16e siècle. C'est notamment ce que vous relatez dans un de vos articles. On retrouve cette présence-là des banques. Très concrètement, ces acteurs financiers, ils sont présents depuis le début auprès des entreprises. Est-ce que c'est essentiellement lié à une volonté effectivement d'expansion des entreprises ? Est-ce que c'est au 19e siècle qu'on voit des entreprises qui veulent effectivement grandir et donc ont besoin de davantage de capitaux et donc de nouveaux acteurs ? Ou est-ce que c'est finalement pas tellement corrélé à une question de taille, mais beaucoup plus, on va dire, d'environnement institutionnel ?
Alors, effectivement, les acteurs financiers, ils ont toujours été présents dans le jeu parce que c'est eux qui collectent l'épargne. Hein. Donc, ils collectent l'épargne directement ou indirectement. Ils créent eux-mêmes de la richesse et leur métier, c'est de l'investir. Donc, assez logiquement, on les a toujours trouvés plus ou moins dans le champ. Alors, il faut quand même distinguer, je pense, si on reste dans le cas de la France, deux ou trois moments un petit peu différents. D'abord, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'essentiel de l'épargne, c'est une épargne qui est, amenée par des petits porteurs, qui sont parfois des gens très riches et parfois des gens de classe moyenne, hein, sont pas forcément des gens absolument richissimes. Et ces gens-là placent leur argent directement à la bourse. Donc il y a une logique qui est une logique qui est très très contradictoire avec l'image d'Épinal que l'on a du bas de laine, d'une France catholique, rétive à l'investissement boursier, qui n'aime pas la bourse, qui se méfie, etc. Tout ça c'est faux. Ça a été très bien montré notamment par Pierre-Cyril Auqueur. Et on a plutôt affaire à une nation qui est une nation de spéculateurs. Si on veut la caricaturer, c'est plutôt ça. Bon. Et les banques sont ici, elles sont présentes, mais elles sont présentes plutôt en appui. Et donc elles conseillent, elles peuvent conseiller notamment les grandes fortunes, elles conseillent les entreprises et elles investissent aussi directement, mais pas de manière absolument centrale. Et puis dans les années, dans l'après-guerre, entre 45 et disons 85, quoi, pour faire court, les banques, alors là pour le coup, sont extrêmement présentes et effectivement elles investissent directement pour le coup. Alors elles prêtent beaucoup. C'est surtout un financement par endettement, à dire vrai, plus qu'un financement en capital, mais Et je reviens sur les logiques d'action dont je parlais tout à l'heure. La différence fondamentale, c'est que les banques qui, à cette époque-là, investissent, je suis toujours en France, sont des banques qui se donnent les moyens et la volonté de développer leur propre stratégie industrielle. Et donc, vous avez des unités à l'intérieur de ces banques qui sont très très puissantes, qui sont pilotées par, en réalité, des gens qui sont des capitaines d'industrie, qui sont eux-mêmes souvent d'anciens industriels, qui prennent des participations et qui vont participer à structurer des secteurs entiers, la sidérurgie, par exemple, l'industrie lourde, qui vont être structurés par des très grands acteurs, je pense ici à Suez ou à Paris, en particulier. Et c'est ça qui se défait dans les années 80. C'est l'un des trucs qui se défait dans les années 80, c'est que cette logique industrielle va progressivement, même à dire vrai, assez rapidement en réalité, en l'espace de 5 ans, elle va être abandonnée et on a des minutes en assemblée générale de présidents de banque qui disent bon bah écoutez, maintenant on arrête et on revient à ce qui est notre métier historique, à savoir un travail qui est un travail d'investissement. On fait plus de la stratégie industrielle, on fait de la stratégie financière. Bon, et ça c'est quelque chose qui intervient effectivement dans les années 80. Donc là encore, la constance, si vous voulez, de la présence des acteurs financiers, elle est logique, puisque c'est leur métier. Donc c'est assez normal, hein, sur un plan purement fonctionnel, c'est pas aberrant qu'on ait toujours eu des acteurs financiers, mais on a eu des acteurs financiers qui ont eu des rôles et des logiques d'action quand même très très différentes selon les périodes, simplement si on s'en tient au XXe siècle.
On a donc ces fameux petits porteurs, c'est pour compléter notre panoplie finalement d'acteurs, on a ces fameux petits porteurs. Tristan Auvray, vous dites dans votre ouvrage que le capitalisme entrepreneurial du 19e siècle est essentiellement constitué de firmes gouvernées par de riches individus. La gouvernance de ces entreprises s'effectue dans une logique de perpétuation et d'extension de l'empire familial et non dans une perspective de maximisation du profit. Le recours au financement externe a l'air d'être plutôt mal vu, alors j'ai envie de vous demander pourquoi, et puisqu'on fait des liens finalement avec ce grand bouleversement des années 80, est-ce que de la même façon qu'on voit ces acteurs beaucoup plus institutionnels arriver, est-ce que ce capitalisme plus familial-là disparaît pour autant ? Enfin, cet actionnariat plus familial peut-être ?
Oui, alors ces actionnaires qui privilégient de toute façon les sources de financement interne par rapport aux sources de financement externe, ça c'est quand même une constante. Dans toutes les grandes entreprises, la proportion du financement en Europe, en tout cas, la proportion du financement interne, donc par le profit réalisé par les entreprises, c'est 70% en moyenne.
Mais pourquoi ? Parce que l'endettement, c'est vu comme de la mauvaise santé, de la mauvaise gestion.
C'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où on va recourir à un financement externe, là, on se met sous la contrainte soit de créanciers, soit d'actionnaires, soit de nouveaux actionnaires. Et donc, voilà, on perd un petit peu en autonomie. Oui. Mais il n'y a pas... le capitalisme, c'est le fonctionnement de base du capitalisme. On a besoin d'un crédit pour lancer une affaire, au minimum, en plus d'un capital personnel qu'on peut mettre dans l'affaire. Et il y a toujours eu un financement externe, mais dans des proportions très minimes. Et donc, ce financement externe, il a pu évoluer sous différentes formes. J'aimerais venir sur cette logique d'extension d'empire familial. Aujourd'hui encore, on a ces logiques d'expansion dans de grands groupes. Mais c'est une expansion qui se fait plus tout à fait de la même manière. Avant, on investissait en interne pour grandir. Là, on investit pour acquérir d'autres sociétés.
Via des holdings notamment.
Via des holdings. Et ça, c'est vraiment l'une des particularités des années 80 ou même 70, hein, jusqu'à nos jours. C'est que les grandes familles, de plus en plus, se diversifient et se comportent comme des acteurs financiers. C'est-à-dire que vous avez la famille Peugeot, c'est Quentin Bello qui a fait une thèse sur le sujet. La famille Peugeot, elle a diversifié ses activités, si bien que elle n'est plus du tout, son portefeuille d'actions n'est plus du tout spécifique à l'automobile. Et ils vont avoir des participations ils avaient des participations dans Orpea, par exemple, dans d'autres sociétés. Et ça, c'est vraiment une particularité des familles, de l'actionnariat familial. Fin du XXe siècle, début du XXIe.
Et une particularité française, européenne, par rapport aux États-Unis ?
C'est
holding familiale américaine, c'est moins d'exemples.
Là aussi, c'est quand même un petit peu une constante qu'on va trouver, même aux États-Unis, dans les années 30, c'est que les grandes familles, pour prendre le contrôle des entreprises, souvent, elles n'ont pas besoin de les détenir en totalité. Elles ont besoin de détenir, disons, 20% du capital pour s'assurer le contrôle en assemblée générale. Et la manière dont elles vont... elles détiennent formellement 20% du capital, mais la particularité de ces familles, c'est qu'elles le font en mettant une mise personnelle qui est extrêmement faible, qui peut s'élever, par exemple, à 1 ou 2% du capital. Alors, comment ils parviennent à ce tour de magie ? C'est très simple, c'est qu'ils font des cascades de holding, des cascades de sociétés, et ils en contrôlent la moitié à chaque fois. Quand on contrôle 50% du capital d'une société, là, on prend les décisions qui vont avoir lieu dedans. Mais on va chercher des actionnaires ou des créanciers pour alimenter le financement de toute cette pyramide. Et ce qui va permettre, avec une mise initiale très très faible, de contrôler des grands ensembles. Donc c'est ça la logique, et ça c'est une logique qui s'est largement développée. Aujourd'hui, vous prenez, prenons des grands groupes par exemple en difficulté financière justement du fait de ces montages, comme Patrick Drahi avec SFR, qui a monté ce type de pyramide pour pouvoir valoriser son propre capital dans de grandes organisations avec des mises initiales très très faibles.
Donc on voit que ce capitalisme-là, cet actionnariat plus familial persiste et signe de fait jusqu'à aujourd'hui, malgré l'intervention de nouveaux acteurs institutionnels, de nouveaux véhicules aussi financiers qui s'occupent de collecter l'épargne d'une certaine manière.
Combien ?
Dans les 900.
Bonne moyenne. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout cet argent ?
Oh, je demanderai à Père d'acheter des actions. Mais des actions bien pensantes. Saint-Gobain, les glaces. Saint-Louis, le sucre.
Saint-Marc, la lessive. Saint-Turon, les cuirs.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Aliatovine.
Voilà un court extrait du film Un drôle de paroissien. On comprend qu'il y a donc une diversité d'acteurs, ces fameux petits porteurs, les holdings familiales, mais en tout cas l'actionnaire en tant que famille, on va dire, qui cherche à maximiser aussi son profit. Et puis les nouveaux acteurs liés à la financiarisation de ces années 80. Pierre-François, il y a une autre nuance que je voulais apporter, parce que je l'ai trouvée particulièrement intéressante dans votre article, c'est le lien finalement entre la forme de l'entreprise, la forme juridique de l'entreprise, et justement cette mise à distance, ou au contraire cette inclusion de l'intérêt de l'actionnaire au sein de l'entreprise. Vous dites qu'à partir du milieu fin du 19e siècle, les premières entreprises adoptent la forme juridique de la société anonyme dans le but de mobiliser des actionnaires plus nombreux, revendre plus fréquemment leurs actions, assumer l'objectif de leur servir des dividendes plutôt que de rendre des services publics. Le mouvement part d'abord des États-Unis et puis est plus lent en France et en Allemagne. Pourquoi un tel tournant, Pierre-François ?
Oui, alors, une manière, disons, fonctionnelle de raconter cette histoire, là aussi, en identifiant des problèmes et puis en repérant des solutions, c'est de dire, les entreprises grandissent, donc elles ont besoin de plus d'argent, elles grandissent notamment parce qu'elles s'étendent géographiquement, elles produisent davantage, elles répondent à une demande qui est une demande plus importante, donc elles grossissent. Donc pour grossir, il faut drainer davantage de capitaux, il faut que davantage de gens soient prêts à investir en capital, donc en risquant leurs billes, et par conséquent, au départ, on avait des gens qui s'associaient les uns aux autres parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils étaient de la même ville, parce qu'ils fréquentaient la même paroisse, parce qu'ils sortaient des mêmes écoles, etc., parce que leurs enfants étaient mariés entre eux et tout. Donc il y avait une espèce de solidarité comme ça de fait. Les sociétés anonymes, les premières sociétés anonymes en France, elles sont très peu anonymes en réalité quand on regarde qui est au capital. Les gens se connaissent. Bon. Et puis, quand vous voulez construire, je sais pas, l'exemple patenté, c'est le chemin de fer. Quand vous voulez construire un chemin de fer à travers les États-Unis, juste travailler avec vos voisins et vos copains, c'est c'est pas suffisant. Et donc, il faut réussir à drainer énormément de gens qui ne se connaissent pas. Et donc, inventer un véhicule juridique qui permet de rassurer un peu tout le monde et de dire, vous aurez droit à la parole à proportion de ce que vous avez investi, par exemple, ou vous aurez, vous risquez de ne perdre que ce que vous avez amené, et pas plus. Vous n'êtes pas notamment responsable sur vos biens personnels. Et donc, le véhicule juridique qu'on invente, à ce moment-là, ou plus exactement, qui était déjà présent, mais dont on se saisit, c'est le véhicule de la société anonyme en France ou de la corporation aux États-Unis. En réalité, là encore, quand on regarde le développement de cette forme et l'adoption de cette forme juridique, on se rend compte que effectivement, elle a du succès à partir de, disons, d'un schéma un peu inattendu, puisque les premières corporations aux États-Unis, c'est des universités, donc c'est un petit peu étrange par rapport à ce récit fonctionnel que je viens de faire. Mais enfin, là encore, on se saisit effectivement de ce véhicule pour résoudre le problème que je viens de décrire. En Europe, il y a beaucoup plus de résistance, hein, et donc on va se tourner vers des formes juridiques qui sont des formes un peu plus bizarres, les SARL, des entreprises plus petites, des sociétés en commandite, qui
SARL
permettent
pour,
en gros...
pour société à responsabilité limitée.
À responsabilité limitée. L'idée générale derrière, parce qu'après ça va vite devenir extrêmement compliqué, si on circule entre les différents types de formes juridiques, mais l'idée générale derrière, c'est d'essayer d'avoir en gros le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire c'est essayer d'avoir une capacité à faire venir des gens pour risquer leur capital tout en conservant le pouvoir. Et donc, en réalité, les choix de formes juridiques qui se mettent en place au début du XXe siècle en Europe... On a évidemment des sociétés anonymes, en particulier pour les plus grosses entreprises, parce que là, elles sont assez difficiles à c'est assez difficile de les remplacer, même si on a des contre-exemples. Et sinon, pour les entreprises qui sont les entreprises un tout petit peu plus petites, on a effectivement des SARL, on a des sociétés en commandite qui vont permettre à des individus de conserver le pouvoir, tout en mobilisant les capitaux de partenaires qu'ils essayent de rassurer tant bien que mal, mais en utilisant d'autres ressources que les ressources proprement juridiques.
Tristan Auvray, on en arrive là à un point essentiel finalement et un peu nodal de cette émission, c'est que on voit là qu'il y a des barrières, des garde-fous qui sont plus ou moins institutionnels, plus ou moins juridiques, qui sont mis en place pour tenter d'avoir, comme on le disait à l'instant, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire à la fois les fonds, mais aussi le pouvoir. Mais est-ce que finalement c'est ça qui intéresse les actionnaires? Est-ce que finalement le fait que les actionnaires puissent se contenter de recevoir des dividendes, donc une certaine forme de liquidité, n'est pas déjà suffisant? Est-ce que ces SARL, par exemple, ont fait fuir les actionnaires? Est-ce que c'est vraiment le pouvoir que cherchent les actionnaires?
Alors, là aussi, il faut toujours distinguer les deux types d'actionnaires. On a l'habitude de distinguer entre ceux qui privilégient le contrôle, donc qui ont mis en place ces dispositifs pour maîtriser l'organisation des grandes sociétés tout en captant l'épargne des autres. Et on a les actionnaires qui vont avoir une préférence pour la liquidité. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est seulement d'acheter des actions, de les vendre, éventuellement avec une plus-value, et de recevoir les dividendes qui est associé. Et ceux-là, ils n'en ont rien à faire du contrôle. Donc, c'est les deux types d'actionnaires qui existent. Mais ce deuxième type d'actionnaire qui va privilégier la liquidité... Il apparaît vraiment aux États-Unis dans les années 20, en fait, au moment où le marché boursier, où la liquidité sur le marché boursier se développe fortement. Et il va se développer, alors Pierre-François prenait l'exemple tout à l'heure des petits porteurs en France avant la Seconde Guerre mondiale, mais de manière beaucoup plus institutionnalisée, ça va se développer aussi fortement dans les années 80-90 en France et en Europe, par le biais justement, par le biais des banques qui vont proposer des produits financiers qui permettent de centraliser l'épargne des épargnants. Et donc de l'investir collectivement ensuite dans les groupes. Et ces fonds d'investissement qu'on appelle des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de portefeuille, ces fonds d'investissement-là, eux, typiquement, alors ça a un peu changé depuis 10-15 ans, mais typiquement c'était des acteurs qui privilégiaient totalement la liquidité de leur portefeuille et qui par exemple, bah voilà, s'il y avait une décision qui ne leur convenait pas, ils pouvaient vendre des actions. Alors une décision qui leur convenait pas, c'est souvent très construit par les marchés financiers, ça. Hein. C'est, il y a des normes qui sont mises en place, et c'est pas les investisseurs qui vont dire, ah bah cette décision-là, finalement, ce niveau de rentabilité me plaît pas. C'est que les analystes financiers, les dirigeants d'entreprise eux-mêmes se fixent des objectifs qu'ils annoncent aux investisseurs, et à partir du moment où ces objectifs ne sont pas atteints, les investisseurs savent qu'il va y avoir une sanction des marchés, donc ils se mettent tous à vendre à ce moment-là.
Alors on le voit, ce tournant des années 80-90 est essentiel pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne cet actionnariat, quel est le pouvoir aussi des actionnaires. Je vous propose d'écouter justement une archive de 1987.
Nous avons un très grand programme d'investissement à financer d'ici les 8 ou 9 prochaines années, 25 milliards de francs. Alors il faut trouver les moyens de financement de ce programme de renouvellement et de modernisation de la flotte. Je pense donc qu'il faut, première source de financement, que Air France dégage des résultats suffisants. Il faut essayer de limiter l'endettement de la compagnie, donc de ne pas trop recourir à l'emprunt. Et par conséquent, il faut, à mon avis, chercher des capitaux extérieurs. L'État, j'espère, fera un effort en ce domaine, sans doute insuffisant. Et par conséquent, pourquoi ne pas chercher, pour Air France restant, et j'insiste sur ce point-là, une compagnie nationale, des capitaux sur le marché financier, en ouvrant le capital à des personnes privées, physiques ou morales.
Voilà, on entendait à l'instant le président du conseil d'administration d'Air France à une époque où Air France avait annoncé ouvrir 15% de son capital aux actionnaires privés, et on l'entendait pour des raisons d'investissement finalement à fournir, des investissements particulièrement lourds. On en revient là à la raison pour laquelle on se tourne vers des actionnaires. Tristan Auvray, une question cependant, on a compris que ce contexte, et notamment en France, de la privatisation avait énormément joué. Vous avez parlé de ces acteurs que sont ces fameux gestionnaires d'actifs, et c'est intéressant parce que vous l'avez mis dans la même phrase que les banques, finalement. On pourrait dire les banques aussi sont chargées de collecter l'épargne des Français, entre autres. Pourquoi est-ce que ces gestionnaires d'actifs arrivent sur le devant de la scène? Pourquoi, surtout, les épargnants leur font confiance?
Oui, alors, les épargnants font généralement confiance à leurs banques. Et pour placer de l'argent, ils vont d'abord aller voir leur banque qui, elle, va leur proposer des produits financiers. Et les banques françaises se sont très bien structurées dès les années 60 pour proposer ce type de produits, en fait, qui vont permettre d'attirer l'épargne. C'est pour ça que ces gestionnaires d'actifs, en Europe et en France, sont essentiellement des filiales de banques. Mais c'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a plus avec l'industrie avec le système des fonds de pension, est-ce que je peux revenir deux secondes sur ce système-là qui, et ça me semble important de préciser ce point-là, qui explique beaucoup de choses sur la financiarisation des entreprises. C'est que aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le système de retraite par répartition est tellement faible que les individus doivent cotiser à un fonds de pension supplémentaire pour cotiser de l'argent, pour cotiser de l'épargne et espérer en retirer un bon rendement par la suite pour leur retraite. Bon, c'est un système très inégalitaire. Il y a 50% de la population active qui a les moyens de se payer un fonds de pension. C'est dangereux parce que s'il y a une crise financière, on peut perdre sa retraite. Bon, ça, ce sont des choses bien connues là-dessus. Mais la particularité, c'est que ce système-là a poussé à la structuration de gestionnaires d'actifs indépendants aux États-Unis qui vont avoir la particularité de chercher toujours plus de rendement. Et ça, c'est l'évolution historique des fonds de pension aussi aux États-Unis. C'est que, au début, ils investissaient dans des actifs très peu risqués, des titres de dette publique, puis après des titres de dette privée, puis après des actions d'entreprises cotées, et maintenant, depuis 10-15 ans, ce qu'on appelle des actifs alternatifs, des actions d'entreprises non cotées, qui sont un peu plus rentables, de l'infrastructure, de l'immobilier, etc. Et avec des logiques qui poussent à des demandes de rentabilité toujours plus fortes. Pourquoi ? Parce que ce système de fonds de pension aux États-Unis, comme en Europe, il est soumis au vieillissement de la population. Et donc, alors, pour éviter de demander des augmentations de cotisations à ceux qui cotisent dans les fonds de pension, même s'ils le font d'ailleurs, les cotisations augmentent plus dans les fonds de pension d'ailleurs que dans un système de retraite par répartition, ils cherchent de la rentabilité pour pallier ce problème. Et donc, ça pousse à plus de financiarisation sur les entreprises et plus de prélèvements sur l'activité.
Pierre-François, pour bien comprendre le poids aussi de ces acteurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais peut-être davantage aux États-Unis où ils sont davantage développés, dans quelle mesure on a, avec l'apparition de ces nouveaux acteurs, un paysage éclaté? C'est-à-dire, on a parlé de fonds indépendants. Est-ce qu'il y a une très grande diversité d'acteurs, ou est-ce qu'au contraire, progressivement, depuis les années 80, il y a des mastodontes finalement qui arrivent sur le devant de la scène, qui arrivent à se constituer? On parle très souvent de BlackRock, qui a été fondé, je crois, en 1988. Est-ce que finalement, il y a un peu ce paradoxe d'avoir à la fois une multitude de nouveaux acteurs et en même temps de très gros qui concentrent le capital et donc le pouvoir potentiel qu'ils peuvent exercer sur les entreprises?
Oui, on a effectivement des logiques de concentration qui sont très très fortes. Il faut un petit peu faire attention de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les premiers investisseurs institutionnels en Europe, aujourd'hui ce sont les assureurs. C'est pas les banques, hein. C'est les assureurs qui, comme toujours, sont cachés, mais qui drainent une épargne absolument considérable, et pour cause, hein, puisque vous leur versez des primes, ils les gardent et ils les font fructifier. Donc ils ont une masse à placer qui est considérable. Mais si vous regardez les fonds que gèrent les assureurs, si vous avez des contrats d'assurance vie en unité de compte, donc pas en euros, donc en gros des contrats d'assurance vie un peu risquée, quoi, dans lequel on vous garantit pas votre capital, ben on vous donne le choix et on vous dit ben chez nous vous pouvez avoir le choix entre une gestion qu'on appelle en général dynamique, donc dynamique ça veut dire risquée, ou une gestion qui est plus conservatrice, donc qui est moins risquée. Bon, et donc on peut avoir des monstres, des énormes acteurs, mais qui proposent à leurs clients des logiques qui sont des logiques diversifiées. Donc ça rajoute encore, c'était un point préliminaire pour rajouter encore un peu à la complexité de ce que vous décrivez. Ce qui est très important, je crois, c'est que ces acteurs-là, à la fin du compte, ils engagent une rationalité qui est une rationalité financière. Alors qui n'est pas toujours la même. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la distinction dont parlait Tristan Auvray tout à l'heure entre des gens qui restent et puis des gens qui s'en vont, entre Exit et Voice, entre les actionnaires de contrôle et puis les actionnaires qui sont là uniquement pour placer et éventuellement pour repartir avec une plus-value. Mais vous avez aussi des gens qui restent, qui vont investir avec une logique qui est une logique, un horizon 30 ans. Et puis, et vous avez des fonds qui vous disent, bah, nous on fait du placement à très long terme. Et donc on va investir, tant pis, on va prendre un bouillon éventuellement la semaine prochaine, c'est pas grave, on restera là parce que nous on fait le pari que sur 30 ans on va pouvoir continuer à avoir de l'argent. Mais l'objectif reste toujours le même. Donc, il peut y avoir des horizons de calcul, par exemple, qui sont très différents. Mais, à la fin du compte, ce qu'on cherche, c'est une rentabilité qui est une rentabilité financière en l'occurrence, quand on parle des contrats d'assurance vie, c'est évidemment pour les assureurs, c'est aussi pour les assurés. Et c'est ça qu'on leur vend, en réalité. On leur vend une promesse de rentabilité. Et c'est là qui est toute la perversité ou le caractère un peu retors, disons, du capitalisme américain et de la logique du système des fonds de pension, c'est que on a des salariés qui sont à la fois les premiers bénéficiaires et aussi les premières victimes des fonds de pension, puisque ils vont bénéficier de la rentabilité des fonds de pension dans leur retraite et simultanément en être les victimes, puisque les fonds de pension vont imposer des logiques qui vont leur être défavorables dans leur quotidien tant qu'ils travaillent. Donc on a cette complexité là qui peut être portée par des acteurs qui sont parfois des mastodontes énormes mais qui sont eux-mêmes souvent à dire vrai coupés en petits morceaux. BlackRock c'est pas un seul fonds, si vous voulez, c'est des centaines de fonds. Et puis effectivement des acteurs qui vont avoir des logiques parfois de niche extrêmement spécialisés, c'est le cas notamment des fonds activistes qui eux sont hyper hyper agressifs et dont le business c'est ça, c'est l'agressivité et faire cracher un maximum de cash en un minimum de temps.
Tristan Auvray, à partir du moment où on dit qu'il y a plusieurs acteurs, même s'il y en a certains qui sont énormes et découpés potentiellement en petites entités, à partir de ce moment-là on peut se dire assez logiquement que ces acteurs-là se font concurrence. Très concrètement, comment ils font pour remporter la mise, pour convaincre soit les petits épargnants de gérer leur épargne ou pour s'imposer sur ce marché-là? C'est une course à quoi en fait à laquelle jouent ces acteurs-là?
Alors,
et quelles conséquences ça a aussi pour les entreprises?
Oui, alors pour pouvoir attirer les épargnants, le meilleur moyen c'est de leur proposer les frais de gestion les plus faibles possibles. Et c'est là-dessus que se sont orientés justement les grands gestionnaires de portefeuille comme BlackRock, Vanguard, State Street, qu'on nomme les Big Three, donc les trois grands gestionnaires d'actifs qui ont une gestion de portefeuille qu'on dit indicielle ou passive. Indicielle pourquoi ? Parce que leur portefeuille reproduit un indice boursier comme le CAC 40. Et au lieu de sélectionner et de payer des analystes financiers pour sélectionner des entreprises particulières, pour essayer d'obtenir la rentabilité...
Ce qui était le cas jusqu'ici, plus ou moins.
Oui, ce qui était le cas jusqu'aux années 2000-2010, essentiellement. Ces investisseurs-là ont proposé un modèle qui ne coûtait presque rien. Et donc, pour les épargnants, c'était assez intéressant. Et de fait, pendant les années 2010, ils ont attiré 90% des flux d'épargne, dont 80% seulement pour BlackRock, Vanguard et State Street. Et ce qui fait qu'ils couplent aujourd'hui à la fois une extrême concentration dans les entreprises dans lesquelles ils placent les fonds et une extrême diversification. C'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire du capitalisme aux États-Unis.
Et donc on voit bien la prise de pouvoir potentielle que cela implique. Merci infiniment à tous les deux, Tristan Auvray et Pierre-François, d'avoir participé à cette émission.